France Culture.
France Culture présente une série d'entretiens avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, premier entretien, conditions de travail de quelqu'un qu'on appelle encore un poète. Première partie.
Francis Ponge, pour commencer ces entretiens, il me semble qu'il ne serait pas inutile d'expliquer comment l'individu qui va vous poser des questions a été amené à s'intéresser à celui qui va lui répondre, c'est-à-dire vous. Il me semble que dans cette société, toute valeur doit être cherchée en marge, à l'écart, et dans une position de contestation, qui implique à la fois une technique positive et un refus de tout compromis théorique et pratique. Si je me réfère à mon expérience personnelle, j'ai lu pour la première fois un texte de vous, par hasard, dans une anthologie. Ce texte, c'est Les Escargots. J'étais très jeune, mais l'impression ressentie a été immédiatement celle d'un anti-lyrisme, d'une volonté de communication neuve, d'une sortie du manège, comme vous diriez, d'une sortie du ronron poétique et d'une réconsidération élémentaire, lexicale, sensible, à la mesure d'une crise radicale. Ce texte que j'ai commencé par lire m'a donné envie de lire tout ce que vous écriviez et je suis obligé de noter que pour vous lire, il faut accomplir un travail. Que par conséquent, il faut partir d'une périphérie. On prend contact avec un texte de vous, mais si l'on veut vraiment lire ce premier texte, il faut parcourir un très long chemin. Ces entretiens, je voudrais les placer sous le signe de votre refus de la qualification de poète. Que vous nous disiez pourquoi et comment cela vous a amené à travailler dans l'ombre. Puisque l'on nous a demandé de parler ici, et sans que nous soyons dupes de la levée d'une censure qui, en ce moment même, peut-être frappe des recherches inconnues, qu'avons-nous donc à dire des rapports de contestation qu'un travailleur de votre sorte entretient avec la société où il vit? Autrement dit, quelle est la condition qui vous est faite? Comment vous, Francis Ponge, avez-vous réussi à venir jusqu'à aujourd'hui à la radio, par exemple? Il me semble qu'il ne faut pas cacher à l'auditeur, ces coulisses de l'information, par lesquelles les lecteurs et les auditeurs, justement, doivent se rendre compte que ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent ne se manifeste jamais qu'à travers une multitude de relais, de filtrages, et dans un contexte que l'écriture ou la parole telle que vous l'entendez ont pour fonction de penser. Je voudrais vous demander si vous êtes conscient des tentatives incessantes de récupération et de déviation qui ont pour but de masquer la réalité d'un travail, ce travail dont vous allez nous parler, au profit d'une idéologie stérilisée, noble, ou tout simplement bornée.
Oui, rompant à mon tour, en cet instant même, et pour ce qui me concerne, le silence, je voudrais, comme je le fais toujours, saisir aussitôt la situation présente dans sa matérialité. Que se passe-t-il concrètement à l'instant même? Je viens de commencer à parler devant les micros de la radio. Cette déclaration est enregistrée. Me plaçant maintenant à l'instant où vous, auditeur, vous entendez cette déclaration. Eh bien donc, qui entendez-vous? Je dois en effet me présenter. Le mot est bon ici dans toutes ses acceptions. Je crois en effet que je me présente, je me rends présent. Vous entendez un homme qui a choisi, voici longtemps, de vivre d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière. Quelle manière ? L'écriture. Vous entendez un écrivain, ou comme on dit parfois maintenant, un scripteur. Un homme qui a choisi de se refuser, en principe, à toute autre vie, à toute autre activité. Je parle donc, en ce moment, à défaut d'écrire. Et il va sans dire que je parle beaucoup plus mal encore que je n'écris. Au cours des entretiens qui suivront, il sera dit pourquoi et comment j'ai été amené à choisir cette activité, ou pourquoi j'ai été choisi par elle, et à décrire tant soit peu dans quelles conditions j'ai mené cette vie. Quels sont les avatars d'une vie consacrée à cette activité, à ce travail? Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces avatars, qui est justement celui que je connais à nouveau aujourd'hui, je l'ai déjà connu, celui d'être invité à parler, celui d'être aux prises avec un organe d'information, d'avoir été choisi, élu, distingué par l'un d'eux et mis dans la condition à la fois de profiter de cette élection, de cette faveur, et de l'analyser, de la comprendre, de me défaire de toute illusion à cet égard, et par là même de vous en défaire, vous aussi peut-être, auditeurs éventuels de cette émission. Dans toute société, les organes d'information sont codés. Tout membre de cette société doit en passer par là. Il s'agit d'en être conscient. Et à partir de là, d'agir en conséquence. Or, je suis convaincu que le seul moyen d'agir et non d'être agi est justement celui que j'ai choisi, l'écriture. Le seul moyen d'agir sur cette information elle-même et de s'insérer dans cette information pour la déformer. Une société, c'est un ensemble de langages dont le principal est le langage lui-même. J'entends le langage commun, celui qui se parle et qui s'écrit. Il s'agit de savoir si l'on accepte ce langage, si ce langage est de votre goût, au sens le plus absolu du terme, si votre goût ne le refuse pas, si vous pouvez employer ce langage. Eh bien, je dois dire, quant à moi, que c'est par dégoût de ce langage que j'en suis venu à écrire. Il s'agira donc pour moi, pour pouvoir vivre, de modifier ce langage. Je m'y suis employé de diverses façons. Mais la société, son ou ses langages, a mille moyens de se défendre, de se conserver. Par exemple, c'est ce qui m'est arrivé, on va aussitôt vous traiter de poète. On va essayer de noyer le poisson. On va vous engager dans des manuels, dans des anthologies, dans des collections de poésie. On va peut-être aussi vous engager comme professeur, on vous proposera quelques tribunes, on vous demandera des articles critiques, on vous engagera dans quelques comités de rédaction, on vous insérera au milieu d'autres informations en vitesse pour quelques minutes dans quelques chaînes, mot excellent, de radio ou de télévision. Voulez-vous que nous redescendions aux anecdotes ? Vous venez de me dire, cher ami, que vous m'avez lu, appréhendé d'abord, dans une anthologie. Eh bien, je mets en fait que dans cette anthologie, et j'ai été certainement traité de poète, on m'a classé rapidement et on m'a fourré dans la compagnie des poètes, alors que je n'ai cessé de déclarer que je ne voulais pas être considéré comme un poète, que je ne me croyais pas, mettons même, digne de cette appellation, et que j'écrivais en prose, que j'ai toujours écrit en prose, que j'ai également, comme je vous l'ai dit, choisi cette activité, non du tout pour former des objets poétiques, mais seulement pour pouvoir dénoncer le langage commun, en former ou aider à en former un autre, et que je pense seulement que je ne pouvais pas écrire et que l'on ne peut pas écrire autrement que j'ai écrit. J'ai essayé seulement d'écrire de la façon la plus claire que je l'ai pu. Eh bien, ces anthologies, qui fait ces anthologies? Qui se donne le droit de classer, de fourrer les gens dans tel genre ou dans tel autre, de les insérer à leur manière dans une histoire de la littérature, par exemple contemporaine ou même générale? Qui fait cela? Eh bien, nous savons par expérience que ce sont généralement des ratés de l'écriture à proprement parler. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de s'exprimer autrement qu'en manipulant, qu'en triturant ce qu'ils appellent l'histoire ou les genres. Hein. Ces gens-là, naturellement, ne sont pas les plus dangereux, hein, parce que, évidemment, ils ont la faiblesse de faire des pronostics, par exemple, de faire des prévisions. Et alors, comme ces prévisions sont généralement démenties quelques années ou même quelques mois plus tard, parce que les poètes, par exemple, qu'ils ont prôné, eh bien, sont tombés dans l'oubli immédiatement, tandis que d'autres dont ils n'ont pas parlé viennent à la surface et y restent, ces classements ne sont pas tellement dangereux. Maintenant, eh bien, puisque nous sommes devant la radio, il y a aussi la radio qui est un organe d'information. Alors la radio, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une façon de noyer le poisson. Enfin, bien sûr, dans la radio, il y a des émissions de toutes sortes, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que l'auditeur qui écoute en ce moment a entendu exactement avant cette émission. Je ne sais pas ce qu'il entendra après. Mais je me doute qu'il s'agira de choses absolument différentes. C'est ce que j'appelle noyer le poisson, donner une place, une petite place, avec évidemment les émissions culturelles, vous dites telles, sont noyées dans de la musique, dans de la politique, dans des variétés, dans de la chansonnette, dans ceci ou dans cela. Et évidemment, vous êtes déviés, récupérés d'une certaine manière, n'est-ce pas? Il est certain qu'on fait la place à des émissions comme celle-ci, et même en pensant qu'elles sont peut-être dans quelque façon subversives, mais elles sont noyées dans un tel ensemble d'informations rapides, chaotiques, etc., que vraiment le poisson est noyé.
Ce qui est important, c'est donc de marquer qu'il y a pour vous, et ça je suis absolument d'accord, constamment une sorte de falsification à l'œuvre.
Oui, je parlais de noyer le poisson. Mais il y a une façon qui n'est pas tout à fait de le noyer, mais de le faire, par exemple, passer dans un autre bocal. La confusion est telle en ce qui concerne la littérature et le classement et la hiérarchisation des écrivains actuellement, qu'on considère comme écrivains des gens qui en viennent, par exemple, à écrire des mémoires. Eh bien, il m'est arrivé de lire comme ça très vite et de parcourir quelques-uns de ces mémoires qui sont romancés au maximum et d'y lire mon nom. Je suis introduit dans je ne sais quel roman contemporain dans lequel on me fait dire ou on me fait agir de façon tout à fait inexacte, ridiculement simplifié ou falsifié. J'ai naturellement omis de protester jamais contre ce genre de falsification, parce que, ma foi, je n'ai pas de temps à perdre. Mais qu'il soit bien dit une fois que je refuse absolument tout ce qui a pu être dit de moi dans ce genre de littérature, puisqu'on appelle ça encore de la littérature. Et à bon entendeur, salut, je prie aussi bien les lecteurs de ne jamais considérer comme le moins du monde juste ou à accepter les actes ou les paroles qu'on me prête à l'occasion dans ces journaux intimes, ces mémoires qui finissent d'ailleurs le plus mal possible généralement par l'aveu d'une défaite quant à la vie ou quant à l'œuvre. J'espère que quelques-uns de ceux qui m'ont traité de cette façon se reconnaîtront. Je ne veux pas les nommer. On a beau voir, on a beau lire, on est toujours certain de ce qu'on a fait et de ce qu'on aurait dû ne pas faire.
Oui, je pense qu'il est très nécessaire de commencer cette série d'entretiens par les mises en garde que vous venez de faire. Mises en garde qui portent aussi bien sur la manière dont ce que vous écrivez a été reçu, classé, fragmenté, commenté, sur la manière dont votre nom propre, donc lui-même, a été mis en place dans une fiction que vous refusez. Tout cela me paraît à dénoncer pour commencer. Nous sommes ici, en fait, pour essayer de donner, oralement, une approche de lecture de vos textes, de donner à tout auditeur éventuel des éléments d'étude, des éléments de travail qui lui permettraient de lire. C'est justement cette lecture qu'il me semble que tout le système profondément idéologique, et qui ne veut pas se reconnaître comme idéologique, bien entendu, de la société où nous vivons, c'est précisément contre cette lecture que toute cette idéologie est tournée. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quelqu'un comme vous, qui travaille de façon extrêmement lente, extrêmement précise, avec des retours incessants et une volonté d'inachèvement perpétuel, n'est-ce pas ? Donc quelqu'un qui, comme vous, ne produit pas les objets de consommation exigés par la société, mais qui au contraire essaye de transformer les conditions mêmes de cette consommation éventuelle, c'est donc sur ce travail, c'est donc ce type de production qui s'avoue lui-même comme étant une production perpétuelle, qui est constamment occultée. Il est bien évident que les organes de publication sont tenus, sont aux mains de l'idéologie dont nous parlions, qui donc oriente une lecture, qui constamment a des présupposés de sens, de rationalité, d'intelligibilité, et que les textes qui arrivent dans ces régions seront portés ou non à la connaissance d'un public s'ils répondent à ces critères a priori que les employés de ces organes de publication appliquent constamment. Évidemment, ils seraient très étonnés de se considérer comme les purs et simples employés d'une idéologie latente. Ils occupent là des fonctions qui pourraient être occupées par n'importe qui d'autre, pourvu que la même idéologie soit défendue. C'est ce qui me frappe constamment, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la critique littéraire. Il est bien évident que la plupart des articles qui paraissent constamment, cette énorme masse de discours qui consiste à cacher sans cesse le travail portant sur le langage, il est d'ailleurs remarquable qu'il y ait cette prolifération de discours sur la littérature, n'est-ce pas ? Comme si la littérature était quelque chose de très dangereux, finalement, et dont le dévoilement risquerait d'apporter des changements peu souhaitables pour les gens en place.
Oui, il faut constamment se désaffubler. Et se désaffubler non seulement des affublements qu'on a tendance à se former à soi-même, enfin les poètes, comme on dit, sont les premiers à s'affubler, mais des affublements que vous inflige, par exemple, la critique littéraire. Il faut ne pas vouloir, il faut refuser ces affublements et faire en sorte de s'en dévêtir, s'en désaffubler à chaque instant.
Nous venons d'entendre le premier de la série des entretiens avec Francis Ponge par Philippe Salers. Aujourd'hui, conditions de travail de quelqu'un qu'on appelle encore un poète, première partie. Assistant Jacques Devin, mercredi 19 avril à 22h40, deuxième entretien, conditions de travail de quelqu'un qu'on appelle encore un poète, seconde partie.